I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est journaliste au service culture de France Info, journaliste sportif et ancien chroniqueur foot pour l'équipe 21. Il est également un représentant de cette belle région qu'est la Corse. Cet invité décidément plein de qualités, c'est Matteo Maestracci. Salut Matteo.
Salut, ça va? Merci pour la belle présentation et le compliment pour la Corse.
On aime nos amis corses que l'on salue évidemment. Comment ça va?
Très bien, je suis très content d'être là.
Eh bien écoute, le plaisir est partagé, je suis très très heureux de t'avoir dans Année Lumière. Alors j'ai parlé de France Info, j'ai parlé de l'équipe 21, tu as travaillé donc à la fois en télévision et à la radio, mais je crois que tu as une affinité particulière pour la radio. D'où vient cette préférence pour ce média audio?
Moi c'est un peu cliché, mais j'ai vraiment baigné dedans parce que mon père travaillait dans la radio, notamment à la radio locale de France Bleu à Bastia à l'époque, en Corse. Mais sauf que lui, il n'était pas journaliste, il était animateur. Il avait une émission de rock blues en langue corse. Donc, c'est
quand même, oh là là,
c'est
tout un programme.
Oui, je pense que c'est le seul au monde à avoir fait ça, à jamais. Et donc fan de musique, et moi en fait, je me retrouvais souvent, ça fait vraiment storytelling, mais c'est vrai, je me retrouvais souvent...
Ah, on est là pour ça.
Il n'y a rien de romancé, je me retrouvais souvent après l'école à aller l'attendre, à attendre qu'il ait fini sa journée à la radio. Et donc j'étais au milieu des disques de la discothèque. C'est là que j'ai écouté mon premier disque de rap aussi à 9 ans, donc après c'est devenu une passion et il y avait vraiment un goût pour ça, et après c'est le journalisme, et du coup j'ai pu mélanger ma vocation, mon envie d'être journaliste avec le fait de faire de la radio. Mais ouais, je me suis jamais posé la question de faire autre chose dans le journalisme que de la radio. Pour moi c'était évident,
la belle évidence quoi. Ouais. Et là du coup ça fait 10 ans, 15 ans que t'es à Radio France.
2005, le premier contrat, ouais, de sortie d'école, 2005, donc 18 ans, ouais.
Très vite. Ça
on vieillit, bah oui, merci pour le...
Désolé pour ça.
Mais c'est pas grave.
Alors justement, bah écoute, on va changer un peu les idées, on va parler d'une année de cinéma, et justement ce mois-ci, nous allons prendre un peu de distance avec notre époque pour aller découvrir un millésime situé à la fin des 70s, une année d'apparition de nouvelles références et de grands films qui vont bouger les frontières de leurs genres respectifs, une année de zombies, de couteaux et de collants, de passages de témoins comiques et de l'arrivée sur l'écran d'une autre vision de la guerre du Vietnam, plus réaliste, plus intime, plus tragique surtout. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1970. You're the one that I want, chanté par John Travolta et Olivia Newton-John dans le film Grease. On écoutait ça et on allait voir ça en 78. Alors pourquoi avoir choisi cette année-là, 78, Matteo?
Alors moi j'étais pas né, hein. Je précise que je suis né en 80, donc je n'ai pas vu Grease à l'époque au cinéma, et quelque part tant mieux, mais après bon, j'ai fait beaucoup de mariages où le Grease, ouais, Megamix est passé, évidemment, pour notre plus grand bonheur à tous. Pourquoi 78? Quand tu m'as demandé, Thibaut, de réfléchir à une année, je suis allé vers en fait mes films préférés, parce que il y a à la fois une solution un peu de facilité, mais aussi l'envie de parler de choses qu'on adore.
Bien sûr.
Et l'un de mes films préférés, c'est Halloween de John Carpenter, et 78. Et du coup, j'ai regardé les autres films qui étaient sortis cette année-là. Déjà, j'ai regardé si l'année était disponible dans tous les merveilleux podcasts que tu as pu faire déjà avec tes invités. Et ça m'a paru assez évident. On a échangé ensemble, je me souviens, et on est très vite tombé d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est parce que c'est une année que je n'ai pas connu, moi, encore une fois, je suis né plus tard, mais qui est riche à plusieurs égards, et puis surtout avec des films dont on va parler, qui proposent une vraie variété.
Une année de cœur, quoi, une année de,
ouais,
films de cœur.
Complètement.
Écoute, c'était encore une fois, on va en reparler, mais c'est une belle évidence. Alors, 78, c'est l'année des fameux accords de Camp David qui préparaient alors la paix israélo-égyptienne, du naufrage de l'Amoco Cadiz et de la Marée Noire en Bretagne, ou encore du premier bébé éprouvette Louis Brown en Angleterre. L'année aussi où on a dit au revoir à Claude François et Jacques Brel, où le jeu vidéo Space Invaders arrive sur les bornes d'arcade et où les mythiques séries L'Incroyable Hulk, Battlestar Galactica et Dallas débutent à la télévision américaine. Mais 1978, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là, les spectateurs faisaient un triomphe au box-office à Midnight Express, La Cage aux Folles et Grise donc, et allaient voir une dernière fois Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort. Brian De Palma signait Fury, Ingmar Bergman sa Sonate d'automne, Terrence Malick ses Moissons du Ciel, quand Claude Sauté racontait Une histoire simple avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Mais cette année-là, trois longs métrages vont venir révolutionner leurs sous-genres respectifs et redéfinir les frontières du slasher, du film de zombies et du film de super-héros. Des œuvres aujourd'hui références qui sont au cœur de notre premier thème. J'ai nommé Superman de Richard Donner, Zombie de George Romero et Halloween de John Carpenter. Halloween, la musique écrite par John Carpenter, composée par John Carpenter, et c'est un film réalisé par John Carpenter, l'un des films qui va être au cœur de notre premier thème. Alors Halloween, la nuit des masques en français, avec Jamie Lee Curtis, c'est l'un des gros succès de 78, cette année 78, puisqu'il va rapporter 70 millions de dollars dans le monde pour un budget à l'époque de 350 000 dollars, donc c'est vraiment un budget assez modeste, et c'est l'un des films qui va devenir l'un des plus rentables de l'histoire, et c'est le premier film de la saga du tueur Michael Myers, qui compte à ce jour 13 films, et elle est encore en cours, puisqu'il y a un dernier film qui est sorti l'année dernière. Alors, hors micro, tu me parlais, Mathéo, de ton histoire avec Halloween, justement. C'est quoi ton histoire personnelle avec Halloween?
Alors, très étrangement, je ne me souviens pas de la première fois où je l'ai vu, parce que, en gros, moi, ma cinéphilie s'est construite dans un premier temps à l'adolescence, vraiment, ouais. Et ensuite, plus tard, quand j'étais étudiant et que j'avais un peu d'argent pour m'acheter des DVD. Donc là, j'ai commencé à m'acheter des Scorsese, des Cimino dont on va parler tout à l'heure, voilà, des Kubrick, des choses qui étaient censées être des grands classiques plutôt côté américain. Mais par contre, mon histoire avec l'horreur qui est vraiment un genre que j'adore et qui me parle beaucoup, j'essaye de voir tous les trucs qui sortent encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins intéressant, même s'il y a souvent encore quelques pépites, heureusement. Je sais qu'il y a pas mal de films comme La Malédiction de Richard Donner que j'ai vu qui passaient en deuxième partie de soirée sur M6 à une époque. Tu vois, à une époque, il y avait une série, je sais plus comment ça s'appelait, Les Jeudis de l'Angoisse ou un truc comme ça. Ouais. Et il y a plein de films que Angel Hart aussi, d'Alan Parker, des films que j'ai découverts comme ça le jeudi soir. Alors moi, je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans. Je commençais un peu à rester à la maison tout seul, à regarder des trucs donc, pour se faire peur avec des potes.
Je me souviens, moi j'avais vu Evil Dead 2 sur ce créneau-là à l'époque, mais j'avais 8 ans ou 7 ans. C'était là, genre,
et donc, je suis incapable de te dire si j'ai vu Halloween sur M6 comme ça ou sur Canal lors d'une rediff, mais je l'ai vu pareil à l'adolescence. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, on était très vidéo club et moi j'étais à Bastia en Corse, donc j'avais pas l'accès au cinéma parisien qui passe parfois des pépites, des grands classiques. Donc vraiment, le vidéo club et Canal Plus, dans une moindre mesure, c'était l'accès au cinéma.
C'était
en général,
la fenêtre vers tous ces films-là plus que le cinéma.
Je sais que quand on était gamin, moi j'étais donc en Corse, les grands, les plus grands que nous louaient des films d'horreur régulièrement, et nous on n'osait pas les voir parce qu'on avait peur, mais on se disait, mais quand on sera plus grand, nous aussi on va pouvoir louer les Poltergeist, les Evil Dead, ces films là et parfois même des films plus médiocres mais qui fonctionnaient bien. Et Halloween, j'ai toujours eu l'impression que il était tellement évident que finalement personne ne le louait. Il était là, on le voyait, on savait que c'était un grand classique, mais on se disait, allez, on va prendre un truc un peu plus marrant ou un truc un peu plus
sombre. C'est une évidence, on va aller chercher quelque chose de plus.
Les Peter Jackson, Grand Dead, tout ça, on se disait, allez, on va rigoler un peu avec du gore et tout. Mais Halloween, il était là, presque, il s'imposait de lui-même, mais il en imposait tellement que. Et donc, je l'ai vu assez, finalement, assez sur le tard. Donc, je te dis, à 16-17 ans, peut-être. Et. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, entre autres choses, c'est que j'ai vraiment eu plusieurs regards. C'est souvent le cas. On voit une œuvre quand on a 16 ans, on la prend en pleine poire, et puis après, on va aimer d'autres choses. On va aimer ses thématiques, on va aimer la technique aussi. Tout ça, j'étais trop jeune pour le comprendre à l'époque. Mais je l'ai d'abord pris comme un vrai slasher, ce qu'il est. Un film qui fait peur, un film où on se blottit sous la couverture et où on a envie que ça se termine, on ferme les yeux. Et ensuite, je l'ai vraiment considéré comme une œuvre, comme quelque chose d'artistiquement extrêmement abouti. Donc ma première impression avec Halloween, c'était ça à l'adolescence. Et ce qui est rigolo, c'est quand j'y ai repensé, quand je préparais ce podcast, je me suis dit, mais c'est un film, ça fait partie des rares films où si toutes les semaines on me dit on le re-regarde, je le fais. Parce que je vais toujours, c'est toujours le rapport affectif qu'on a avec des grands classiques ou des films qu'on adore, on va toujours trouver des choses qu'on n'avait pas vu la fois avant, d'avant.
Ouais, absolument. Et on va le rappeler, mais vous connaissez bien sûr l'histoire, parce que c'est une histoire tellement maître étalon du genre, mais Halloween, oui, ça raconte la nuit de meurtre d'un tueur en série, donc Michael Myers, qui va éliminer, qui était un interné psychiatrique qui s'est échappé et qui va éliminer toute une galerie de personnages évidemment adolescents, évidemment jeunes et insouciants.
Il tue sa sœur quand il a 6 ans.
Voilà. Et avec cette scène complètement folle de début, avec juste la
caméra
main d'une main avec un couteau qui tue sa sœur, et à la fin, bon, on vous laisse découvrir le film, mais voilà, et du coup il part dans une nuit de folie où il va essayer de tuer tous ces adolescents, et il y en a une, la fameuse Final Girl, Jamie Lee Curtis, qui va se survivre. Halloween, tu l'as dit, c'est un slasher, c'est un film de slasher, et à bien des égards, on dit souvent que c'est le film qui a annoncé, amorcé une sorte d'âge d'or du slasher, a redéfini le genre du slasher d'une certaine manière, alors que ce genre-là existait bien avant, dans les années 30, ou même Psycho en 60, on peut même penser au Giallo, à bien des égards. Comment un film qui arrive en 78 peut rétroactivement l'avoir inventé véritablement? C'est un peu particulier.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je me demande si en fait le modèle, et d'ailleurs dans toutes les légendes, il y a plein d'anecdotes qui entourent la conception d'Halloween, et on n'aurait pas le temps de toutes les énumérer, mais il était question que Carpenter fasse une suite à Black Christmas, qui est un film de 74, qui est considéré comme le premier slasher, on va dire, moderne de ces années-là, mais qui a eu moins de postérité, mais qui est encore un peu culte aujourd'hui. Je pense qu'il a beaucoup plus mal vieilli qu'Halloween. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, que je l'ai pas revu. Et Halloween arrive. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? C'est parce que il y a ce côté, tu l'as dit, pour la postérité, $300 000 de budget, 70 millions de recettes. Donc il y a un côté extrêmement efficace. C'est-à-dire il y a peu de moyens, il y a extrêmement peu de moyens, même pour un film de cette année-là ou un film de ce genre-là. Mais le film va cartonner. Il va y avoir un bouche à oreille formidable, tout simplement parce que le film est extrêmement réussi sur le plan de l'histoire, sur le plan de la violence, sur le plan de l'horreur, sur le plan technique. Et puis, alors là, c'est vraiment moi qui, je suis pas sûr d'avoir raison. C'est mon interprétation.
Et toi qui as le micro, donc c'est toi qui as raison.
Pour moi, c'est un des premiers films d'horreur qui s'inscrit dans quelque chose d'urbain. C'est-à-dire qu'on a l'Amérique qui impose son modèle au monde entier, qui fait rêver tout le monde avec le fameux American Dream. Et là, on est en 78, au moment où le film sort, donc on est 5 ans après le choc pétrolier de 73 et quelques années avant celui de 87. Donc on est un peu dans une Amérique prospère, une Amérique pré-réganienne, une Amérique qui impose son modèle au monde. Et un peu comme chez Spielberg un peu plus tard, avec ses pavillons qu'on voit dans E.T., ou dans Poltergeist d'ailleurs, il y a un côté comme ça, l'Amérique rêvée, les pavillons, les gamins qui font du vélo, un endroit sécure. Et Michael Myers arrive là-dedans et vraiment diffuse un poison là-dedans. Il y a un côté, en fait avant on avait peur, l'exorciste se passe aussi en milieu urbain, mais finalement on quitte quasiment jamais la maison, ça se passe à Georgetown, en banlieue de Washington. Ouais, Washington. Donc ça se passe déjà, et c'est en 76 l'exorciste, ça se passe déjà en milieu urbain, mais on est face à quelque chose de surnaturel. Or là, quand bien même Michael Myers a quelque chose de surnaturel, avec sa puissance, avec son côté uniquement diabolique, destiné à tuer, quelque chose, un esprit vide quasiment, avec des yeux blancs, c'est quand même quelqu'un qui a existé, qui a un passé,
il est plausible,
qui a un
passif. C'est quelqu'un de plausible.
Voilà, ça peut être un psychopathe au bout de la rue. Et pour moi, vraiment, pour moi, c'est l'Amérique qui chancelle sur ses bases, l'American Way of Life, où t'as, à un moment donné, un mec complètement fou qui arrive dans une banlieue et qui se met à trucider tout le monde. Et c'est peut-être aussi pour ça que le film est malsain et que le film fonctionne et que le film fait peur par rapport à ce qui va parasiter de l'intérieur.
Toi, tu le mettrais en opposition par rapport à des films comme Massacre à la tronçonneuse, qui se passait effectivement dans l'Amérique des rednecks, et donc du coup, la colline des yeux.
Oui, la dernière maison sur la gauche.
Ces films-là qui étaient pas en zone urbaine, et là, pour le coup, là, tu es en train de te dire que Halloween arrive avec.
C'est une théorie qui n'engage que moi, et peut-être que quelqu'un va écouter ce podcast et dire non, pas du tout, il y avait déjà eu des films d'horreur en milieu urbain.
Sans aucun doute. Mais
comme Dario Argento, par exemple. Mais pour moi, le côté tueur du coin de la rue, quand bien même il est psychopathe et surpuissant, je le vois vraiment comme ça. Et après, ça a donné lieu à... Même Vendredi 13, un peu plus tard, ça se passe dans un lac, un peu à la campagne, donc on n'est pas en ville. Pour moi, c'est le premier film, avec Zombie, dont on va parler aussi de George Romero, qui se passe en milieu urbain et qui se rapproche à quelque chose qui part de quelque chose de moins fantaisiste et qui peut donc arriver entre guillemets à tout le monde, quelque chose de beaucoup plus réaliste que des films avec un antéchrist, avec des vampires, avec des zombies. Voilà.
Peut-être son pouvoir de peur et son pouvoir d'évocation vient peut-être du fait que c'est une réponse très concrète et, comme on l'a dit, très plausible à un mal qui est quand même très présent à cette époque-là aux États-Unis, qui est cette vague de tueurs en série américains. Manson, Ted Bundy, Kemper, enfin tous les, si vous avez vu Mindhunter de David Fincher, c'est des personnages que vous voyez. Et peut-être qu'Halloween vient cristalliser cette peur sous-jacente qui n'est plus seulement chez les rednecks, qui est bien sûr dans nos villes, dans nos foyers, comme tu l'as dit. Et peut-être que c'est une réponse très concrète à ça.
Oui, complètement. Et y a ce côté. Et puis il y a surtout quelque chose qu'on ne peut pas définir, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et d'ailleurs, Carpenter, il n'explique jamais. Pour lui, et d'ailleurs, c'est une des phrases de Donald Pleasence dans le film qui joue le Dr. Loomis, c'est il l'appelle evil, en fait. Il l'appelle le diable. Pour lui, il est motivé par quelque chose de diabolique. Ouais. Michael Myers, il veut juste tuer. Mmh. Il n'a pas de raisonnement. Mais ça pose aussi, du coup, la question, mais une question qui est aussi dans Mindhunter, dont tu parlais, une question de est-ce que ces gens-là sont pénalement responsables ou pas ? Est-ce que ce sont des psychopathes ? Est-ce qu'ils peuvent être jugés ou pas ? Est-ce que ce sont des malades ?
Est-ce que ce sont des êtres humains ?
Est-ce que ce sont des tueurs ? Est-ce que ce sont des assassins ? Ou est-ce que ce sont des personnes malades qu'il faut soigner plutôt que de les enfermer ? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au début d'Halloween, je ne sais pas si tu te souviens. Il doit assister à une audience où il doit être entendu, Michael Myers, donc il est dans un fourgon, on va dire, j'allais dire pénitentiaire, c'est un lapsus, mais un fourgon de l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et à l'issue de cette audience, le docteur Loomis espère qu'il sera emprisonné à vie, parce que lui, il pense qu'il faut qu'il soit enfermé. Et dans les autres Halloween, bon, qui seront jamais aussi bien réussis que le premier, cette question-là de la responsabilité de Michael Myers, est-ce que c'est un tueur, est-ce que c'est quelqu'un avec un cœur qu'il faut quand même écouter, qu'il faut essayer de comprendre, va souvent revenir. Et il y a ça aussi qui, à mon avis, rend le film ambigu et rend le film aussi réussi.
Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que ce qui a marqué aussi, ce qui a facilité et aidé à l'empreinte, ou en tout cas l'impression que importante qu'a fait Halloween sur la culture pop et sur son genre, ce slasher, puisque mine de rien, il a installé aussi cette idée d'un boogeyman, tu vois, Jason Voorhees, Freddy, etc., etc. Lui, il arrive, Michael Myers, il installe comme ça cette idée d'une figure qui revient de film en film, qui continue avec son même modus operandi. C'est Halloween, en le revoyant, tu te rends compte que c'est un film extrêmement épuré. Là, on l'a entendu dans cette musique avec ce thème très très simple, juste quelques notes qui reviennent, qui répètent, etc. Et c'est vrai que même la réalisation de Carpenter, cette figure, Michael Myers, il a certains costumes, mais il est très simple. Son costume, c'est un masque, et l'autre, c'est une blouse noire avec un couteau.
De travail, ouais.
Voilà, c'est très basique. Et Halloween a une sorte d'efficacité dans l'écriture.
Et qui fait qu'aujourd'hui, le film a très 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 peu vieilli. Ouais. Alors, évidemment, il y a des choses qui ont vieilli sur la contre-culture de l'époque, sur la fameuse Final Girl, et puis les codes du slasher qu'il a introduit de si tu fumes, tu te fais tuer, si tu fais l'amour, tu te fais tuer, si t'es vierge, tu vas au bout du film et tu survis. Non mais voilà, il a un peu... Et après, ça a été... Pardon, ouais. Après, ça a été évidemment théorisé par Scream et compagnie, mais... ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'adore Freddy, par exemple. Mais Freddy, au bout d'un moment, j'adore l'idée du tueur dans un rêve. Mais au bout d'un moment, c'est devenu presque un phénomène de foire.
C'est un autre slasher, voilà. c'est plus corrosif.
Les films étaient presque des parodies d'eux-mêmes.
Oui, bah Wes Craven.
Pareil pour Vendredi 13. À un moment donné, il met Jason dans Manhattan. Bon, c'est assez. Mais moi,
Jason
j'adore.
Jason dans l'espace.
Ouais, Jason dans l'espace. Oui, alors après, on va encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Et même Halloween, encore une fois, les suites, il y en a des très mauvaises. Mais. Il y a, je sais pas, il y a un côté implacable dans Halloween. Il y a un côté implacable chez Michael Myers qui fait que encore aujourd'hui le film fait flipper. Le film n'a pas vieilli ou très peu vieilli, et surtout pour moi c'est un chef-d'œuvre. C'est même pas, c'est même pas un très bon film d'horreur. C'est un excellent film. Point barre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il tient encore autant. À mon sens.
Ce thème est riche, puisque effectivement, en 78, il y a Halloween, on en a parlé longuement, mais il y a plein d'autres films, et notamment Superman de Richard Donner, également autre film étalon de son genre. Alors, vous le connaissez tous, mais c'est bien sûr l'adaptation du héros DC Comics créé en 1938, et c'est également l'un des gros succès et critique et public de 78, puisque c'est le film va générer 300 millions de dollars au box-office pour un budget qui, à l'époque, est phénoménal, puisqu'il coûte 55 millions de dollars, et donc c'est un gros budget à l'époque, mais c'est un gros succès, c'est un des gros succès de l'année, c'est le plus gros succès de l'histoire de la Warner à l'époque également, alors qu'on est dans une période où, en 78, les comic book movies, en tout cas les adaptations au cinéma, sont loin d'être légion et sont loin d'être populaires. On a eu rapidement des adaptations des années 40, Batman, The Shadow, Captain Marvel, mais aux États-Unis, le film de super-héros ne fonctionne pas, ne marche pas, ne fait pas recette. Alors moi j'avais une question, est-ce que ce Superman de Richard Donner, c'est une anomalie à l'époque, ou est-ce que justement Warner et Richard Donner, ils avaient vu le vent tourner et c'est un film visionnaire?
C'est sans doute un peu des deux. Je sais que tu l'as revu comme moi. Mais c'est intéressant.
On l'a revu. Avant, moi, je l'ai découvert pour l'émission.
Avant qu'on enregistre. C'est un film qui, contrairement à ce que je disais pour Halloween juste avant, à mon sens, très mal vieilli, mais je veux pas du tout l'accabler. Hein. Je pense que c'est moi, je l'ai revu. Je l'avais pas vu depuis très longtemps. Je l'ai montré à mes filles, que ça intriguait un peu. Bon, alors il y a toute la première partie sur Krypton qui est un peu zarbi, et puis elles sont quand même restées une heure, et puis au bout d'un moment elles ont lâché l'affaire parce que c'est quand même un film très très long, faut le rappeler.
Ouais. Mais avant qu'ils volent,
quasiment 2h30. Voilà. Voilà. Et c'est marrant parce que en fait les scènes dont je me souvenais moi, c'était les scènes dans Manhattan, parce qu'elles sont extrêmement marquantes quand ils se changent dans la cabine téléphonique, ou la scène du début quand ils courent plus vite que le train. C'est des trucs qui m'avaient marqué et que je les ai revus avec plaisir, quand bien même au niveau des effets spéciaux c'est un peu compliqué.
Tu vois les câbles.
Mais tout, pour répondre à ta question, je pense que c'était les deux. Je pense qu'ils ont tenté un truc qui a fonctionné, qui a ouvert la porte à beaucoup de choses. Et très honnêtement, pour une adaptation pas facile de comique, quand on sait en plus la galère qu'a été la production, parce qu'il y a eu des soucis de financement, il y a eu des soucis de longueur de tournage. Ouais. Et puis t'as quelqu'un comme Marlon Brando qui n'avait pas...
Qui prend 3 millions voilà, et qui
est là. Il y a une vidéo célèbre d'ailleurs de Christopher Reeve qui est invité chez David Letterman et qui balance sur Marlon Brando, ce qui est assez rare en général, et ce qui était encore plus rare à l'époque parce que Brando était encore vivant, en disant que non seulement il avait juste voulu prendre l'argent et que ça ne l'intéressait pas, qu'il n'apprenait pas ses répliques, et qu'en plus il ne le voyait plus du tout comme un modèle, parce qu'il disait il est encore trop jeune pour ne plus en avoir quelque chose à foutre de sa carrière et d'Hollywood et ce qu'il a représenté. Bon, donc la vidéo est très forte, je vous la conseille, mais voilà, c'est faut reconnaître à ce film d'avoir tenté quelque chose d'un peu bancal, de l'avoir réussi, même s'il y a plein de défauts, et de montrer que c'était possible de prendre une figure populaire, d'adapter quelque chose qui n'était pas censé être facilement adaptable, et de l'avoir plus ou moins réussi.
Oui, parce qu'on faut rappeler que, on va dire, le dernier grand fait d'arme peut-être d'un film de super-héros au cinéma, c'était à l'époque le Batman de 66 qui était une sorte de long épisode de série, c'est une adaptation de la série télé en long épisode de série qui est porté sur grand écran, mais là on a un film avec effectivement ce très grand format, ce gros budget, des acteurs célèbres, on a parlé de Marlon Brando bien sûr, un réalisateur qui à l'époque n'a pas encore fait toute sa carrière mais qui est déjà reconnu d'une certaine manière, et oui, donc ça fait un quand même un film assez fort mais atypique, et comme tu l'as dit, il faudra attendre peut-être le Batman de Burton pour retrouver quelque chose qui donne un véritable élan un peu plus efficace au genre. Moi je compare un peu ce Superman de Donner peut-être à la charge héroïque de John Ford, qui a fait basculer un peu le western de la série B, et là John Ford il a dit vous savez quoi, on va prendre les caméras, on va les sortir et on va les foutre dehors et on va aller filmer Monument Valley, et là hop, ça a donné un souffle épique au genre du western, et ça a fait basculer le western vers autre chose, cet air classique qu'on connaît tous, mais peut-être que Superman a donné l'impulsion. Et après bon, on parlera pas des suites 2, 3 et 4 qui ont été d'autres choses.
Non, le 2 dans la version remontée par Richard Donner est intéressant. On en a parlé aussi ensemble, c'est vrai que l'ex Luthor joué par Gene Hackman
il est un peu ridicule,
voilà, est plutôt carnavalesque, il fait pas très peur, il en fait quand même pas mal.
Ouais, flemme.
Peut-être aussi pour par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la période et sur Halloween, peut-être aussi que l'Amérique à ce moment-là, 3 ans après la fin de la guerre du Vietnam, avait envie de se raccrocher à des figures populaires, à des figures super-héroïques. Et ce qui a fait que ce Superman a non seulement été greenlighté, produit et a fonctionné. Peut-être qu'à ce moment, je sais pas, hein, c'est une théorie. Moi, j'y étais pas, donc c'est une théorie totalement sortie de mon chapeau. Mais peut-être que ce qui explique aussi le succès du film, c'est bon, ben voilà, il y a un héros rassurant, réconfortant. Tu l'as dit, il y a des vedettes, il y a des effets spéciaux, ils volent au-dessus de New York. Quand ils volent, ça certes vieillit, mais ça garde un vrai charme.
Ah oui.
Donc je pense que le bouche à oreille a bien marché.
Les images sont belles.
Mais c'est vrai que quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis bon, il y a plein de trucs sans queue ni tête, et puis surtout c'est très 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 long. Quoi.
Ouais. C'est vrai que tout le
même le générique, il dure 7 minutes quasiment du début. Il y a tous les acteurs qui sont cités.
Voilà, faut imaginer
la cousine de Richard Donner, on n'en peut plus. Quoi.
le même effet de titre pendant 7 minutes avec la musique magnifique de John Williams, mais quand même c'est très très long. Donc t'es là genre oui effectivement c'est. On dirait le générique de Tar. Et
voilà, qui a le mérite d'être sobre.
Qui a le mérite d'être sobre. Et la même année, on va en parler. Moi, c'est pour ça que je voulais aussi réunir et Halloween et Superman et Zombie de Romero, puisque la même année sort également Zombie de George Romero, qui est donc un nouveau film de zombies par la personne qui a fait passer également le genre à l'ère moderne en 68 avec La Nuit des Morts Vivants. Et là, il sort en 78 Zombie, qui se passe dans un centre commercial où des survivants vont effectivement rentrer et tenter de survivre dans ce centre commercial qui est rempli de zombies qui errent entre les allées dans ce lieu qui avant connaissait était un lieu de fête et maintenant est un lieu d'errement, etc., etc. Et moi j'avais une question puisque on a parlé de pourquoi Halloween, pourquoi Superman et pourquoi zombie. J'ai l'impression que et Halloween en réponse aux tueurs en série de l'époque et Superman effectivement en réponse à la terreur de la bombe nucléaire, de la guerre froide, puisque mine de rien ça parle de cette bombe et de cette peur là, et zombie qui est une sorte de critique aussi de la société de consommation d'une certaine manière. Est-ce que le film de genre à cette époque là n'est pas une réponse un peu aux multiples maux de l'Amérique en particulier?
Oui, puis finalement c'est l'Amérique qui commence à avoir une approche assez réflexive, même si c'est arrivé à d'autres moments sur d'autres périodes historiques, mais quelque chose où elle se regarde un petit peu, mais dans le bon sens du terme, où elle se critique un peu.
Se critique.
Notamment avec ce. Alors, c'est un peu tarte à la crème maintenant, par exemple, de dire que l'invasion de Los Angeles de Carpenter, c'est politique, parce qu'il y a ce truc avec les lunettes, etc. Et c'est pareil. Non, mais je dis pas du tout que c'est pas le cas, parce que c'est ce que tu as développé en argumentaire au début. Il y a effectivement une critique évidente de la société de consommation avec ces gens errants, donc des zombies, dans ces malls interchangeables. D'ailleurs, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais en fait, on dirait quasiment celle de Jackie Brown. Ouais. Parce qu'elles se ressemblent toutes, en fait. C'est incroyable. Il y a la même fontaine au même endroit, les mêmes escalators au même endroit. Et alors, j'ai vraiment revu Zombie avec plaisir. Vraiment, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Et je te remercie d'ailleurs, parce que tu m'as donné envie de le revoir pour l'émission. Et c'est pareil, c'est un peu long. Et je trouve que la qualité du film, c'est aussi son défaut. Ce sont toutes ces scènes, finalement, où le héros sont dans leur quotidien, dans ce centre commercial dans lequel ils sont enfermés. Il y a des longues scènes comme ça, un peu alanguies.
De vie.
Fois où ils discutent de trucs de tous les jours, de leur vie, de ce qu'ils... Et avec les zombies autour. Et c'est à la fois la qualité et le défaut du film, parce que parfois, c'est un peu longuet. Et en même temps, c'est ce qui lui donne un vrai charme. En plus que les scènes d'action, les trucs qui sont mémorables. Mais il y a un côté comme ça, un peu alangui de cette Amérique après les années 60, après les hippies, après la contre-culture. J'ai l'impression que Romero, il prolonge un peu ça. Ouais. Ce côté, alors que le film est sombre aussi, on va pas dire la fin, mais il finit mal. Ces héros sont tous des gens déglingués. Mais il y a quelque chose comme ça d'un peu diffus, un peu planant de cette Amérique-là, post-Vietnam.
Et maintenant, on fait quoi?
Ouais, et maintenant, on fait. Ouais, exactement. Et le film, vraiment, il est. Et puis, je vais être un peu dur, mais voilà, Romero a fait le premier Night of Living Dead en 67, qui est évidemment une référence formidable, et en plus, avec un héros noir, ce qui est encore aujourd'hui est rare. Et il a fait Zombie, qui est un autre chef-d'œuvre. Et après, je trouve que tous ces films de zombies qu'il a fait ne sont que des redites. Ouais. Avec à chaque fois des qualités, des petits charmes, des bonnes idées. Mais pour moi, là, il était au sommet à ce moment-là. Et vraiment, Zombie, je le vois avec plaisir. Et tu as totalement raison, évidemment, sur le côté... le côté ouais, l'Amérique est inquiète, s'inquiète d'elle-même, et c'est ce qui restitue là-dedans avec quelque chose de faussement gaudriolesque, je trouve, de vraiment sombre et de ouais, de très touchant, je trouve.
Et le cinéma de genre, oui, vient questionner pardon, cette Amérique-là, et il revient à son rôle de base, parce que le cinéma de genre est un cinéma, on va dire, anticonventionnel, en tout cas non conservateur, et c'est bien son rôle, effectivement, de venir titiller là où ça fait mal, de temps en temps, et on aimerait bien qu'il refasse ça de temps en temps à notre époque en 2023. Enfin voilà, merci beaucoup Mathéo. Voilà qui conclut parfaitement notre premier thème de l'émission. On est toujours avec Mathéo Maestrachi, on est toujours en train de parler de l'année 78 et on est parti sans plus attendre vers notre second thème. Vladimir, on t'aime beaucoup, hein, Vladimir Cosma, mais on va peut-être raccourcir cette musique-là. La musique, c'est celle de La Zizanie, film aussi important de 78, puisque c'est l'une des deux comédies qui sont dans les salles en 78. La Zizanie de Claude Zidi avec Louis de Funès, Annie Girardot. Et en face de La Zizanie se trouvent Les Bronzés. Et oui, Les Bronzés, deux écoles, deux styles comiques, deux générations qui se croisent cette même année. Alors avant de partir sur Les Bronzés, on va s'attarder sur La Zizanie de Claude Zidi. Alors à l'époque, pour mettre un peu de contexte, Girardot et De Funès sont quand même deux acteurs, deux figures comiques populaires qui sont quand même assez connus du public. Donc c'est un film qui est censé quand même rameuter les foules. Et ce n'est que, on va dire, il ne réunit que 2,7 millions de spectateurs à l'époque. Alors ça paraît énorme pour nous en 2023, mais en 78, ce n'est que le 9e du box-office français. Et pour vous cerner un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'un président, d'un directeur d'usine qui, pour répondre à une grande commande de japonais pour un robot particulier, va tenter d'étendre les frontières de son usine jusqu'à ce que celle-ci déborde sur sa vie privée, son appartement et son mariage, et remettre en cause tous les fondements de sa vie. Évidemment, c'est un directeur d'usine peu affable, grossier, raciste, bref, c'est Louis de Funès dans ses œuvres. Et comme beaucoup de films de Louis de Funès, on va dire, à cette époque-là, c'est du gag de répétition, c'est du burlesque, c'est du personnage, ce personnage de Funès que tout le monde connaît, avec ce comique voilà, de situation. Mathéo, toi, ton rapport à Louis de Funès, ton rapport au comique de Louis de Funès, t'es fan, t'es pas fan, t'en moques, c'est une figure particulière quand même.
Oui, j'aime bien, et comme beaucoup, j'ai grandi aussi en voyant ces films quand ils étaient diffusés trois fois par mois sur TF1. On va dire que j'en ai vu quelques-uns avec mes filles. On va dire que La Folie des Grandeurs,
ça marche bien sur les enfants.
Rabbi Jacob, oui, parce qu'il y a le côté grimace, Rabbi Jacob, Le Corneau, il y en a qui fonctionnent, Le Grand Restaurant. Parce que tu ne m'enlèveras pas qu'il y avait une vraie présence, qu'il y avait des vrais trucs cultes. Je peux comprendre les générations d'aujourd'hui qui vont trouver que ça a mal vieilli. Et puis surtout, La Zizanie, c'est aujourd'hui très difficile à revoir.
Ah, c'est très très compliqué. Hein.
Et c'est la fin d'une époque.
Avant de répondre à cette question, pour résumer, De Funès, c'est 35 ans de carrière, 163 rôles et 315 millions de spectateurs quand même en salle, donc c'est l'un des recordman en termes d'acteurs. Et sa grosse période, c'est entre 64 et 73, où à la fois il va avoir la série des gendarmes, il va avoir Le Corneau, il va avoir La Grande Vadrouille, il va avoir Rabbi Jacob, qui vont être des films qui vont réunir entre 7 et 17 millions de spectateurs dans les salles. Donc c'est quand même assez phénoménal la force de Funès au box-office. Et de Funès, en 78, il devient vieux. Il a des problèmes de santé, il a eu un AVC,
il a eu trois infarctus en 67, donc il a failli y passer, clairement.
Et ça se sent.
Du coup, il a arrêté de tourner pendant un moment, il est revenu, je crois même qu'il y a toute une histoire d'assurance où Claude Zidi le prend, mais il a une assurance particulière en cas de pépin cardiaque de Louis de Funès, donc il y a une assurance sur 11 semaines, je crois, le temps du tournage.
Il paraît que t'as un mec avec un défibrillateur, ouais, un peu comme les Rolling Stones, un défibrillateur à côté.
C'était exigé de la parler.
Mais c'est
donc,
fou.
Donc ça, je l'ai su justement en faisant des recherches avant de venir te voir, je savais pas du tout. Et donc il est à un moment où sa santé est fragile, et on va dire presque sa santé au cinéma est fragile aussi, même si ses films continuent, alors pas celui-là, mais continuaient à l'époque, à je crois que L'Aile ou la Cuisse quelques années avant
Le Loup et la cuisse, c'est juste avant.
C'est juste avant, ouais. Ça marche pas encore pas trop mal. Mais en tout cas, symboliquement, dans ce qu'on voit dans la zizanie, il y a vraiment un côté cinéma de papa, un peu théâtre filmé, un peu figé.
Un peu fin de règne.
Ouais,
un peu fin de règne.
Et fin de règne aussi, parce que même De Funès, il est, même si, encore une fois, il est un peu plus, vraiment toute proportion gardée, un peu plus low tempo par rapport à avant, ouais. Il va quand même faire, il va dire à un moment donné, il va dire à un personnage, regardez,
il va
faire les gestes, les yeux. Non, mais voilà. je me suis entraîné. Non, mais voilà, il va continuer à cabotiner, mais il est presque sa propre caricature, comme même un génie comme Jim Carrey a pu être à un moment donné. Quoi. Il est dans un truc où il va faire la grimace de la grimace d'avant.
Puis comme tu l'as dit, il devient une caricature, puisqu'il est toujours dans ce rôle d'homme bourgeois, un peu bon, évidemment raciste, évidemment caricatural, et qui va être moqué, qui va être ridiculisé, qui va être un peu le dindon de la farce à chaque fois. Et après la zizanie, il fera plus que 5 films, mine de rien, de Funès. Il fera Les gendarmes et l'extraterrestre, Les gendarmes et les gendarmettes, L'avare et La soupe aux choux. Et il meurt
que des chefs-d'œuvre,
ouais. Que des films, effectivement. La soupe aux choux, les gens ont une image de La soupe aux choux, mais revoyez-le, parce que vraiment,
pas.
C'est pas un bon film, hein. Faut vraiment garder ça en esprit. Et il meurt début 83, donc vraiment, il y a ce côté. La zizanie marque peut-être la fin de l'univers.
Oui, et puis comme tu l'as bien amené, la transition, le film va être totalement ringardisé par les bronzés. Et puis il y a ce côté des gags, même dans les charlots, des gags parfois extrêmement élaborés avec des trucs gigantesques qui arrivent dans l'écran, totalement absurdes, avec cette musique qui revient, qui te fracasse la tête parce que tu te restes dans la... Voilà, ouais. Ce truc un peu lancinant et tout. Donc dans la zizanie, ils tentent ça, mais sauf que ça commence donc avec cette histoire de commande, il y a une scène interminable où il y a des Japonais qui viennent,
c'est
il leur fait boire le trou normand.
Et encore, je pense que ça aurait pu être pire.
Il y a Annie Girardot en kimono, en geisha. Bon, hein. Et après, il y a une deuxième partie où sa femme en a marre parce qu'il veut honorer une commande gigantesque de 3000 machines, donc il met les machines chez lui et Annie Girardot se bat, et comme il est à la fois directeur de l'entreprise et maire, elle se présente contre lui aux élections. Donc c'est une sorte de deuxième film. Moi je l'ai vu jusqu'au bout, par conscience professionnelle, mais j'ai un peu lâché l'affaire.
Ah, tu vois, qu'est-ce qu'on fait pour notre métier, c'est quand même fou.
Ah, c'est des cascades.
À ne pas faire chez vous. Et comme on l'a dit, en face de La zizanie, qui est un film compliqué, arrive au même moment, sort Les bronzés de la troupe du Splendide, qui va peu ou prou faire le même score au box-office et qui va amener quelque chose d'autre. Justement, qu'est-ce que la troupe du Splendide va apporter de nouveau à la comédie, puisqu'on parle de comédie ici?
Alors, on a peut-être la fausse idée que les films du Splendide...
Les bronzés, le Père Noël est une ordure,
pour le coup,
les bronzés
sont des adaptations de la plupart du temps de leurs pièces de théâtre. On a l'impression que c'est quelque chose qu'ils amènent quelque chose de populaire. C'est un peu la fausse idée qu'on a, mais qui est à la fois vraie. Mmh. Et en fait, quand tu revois Les bronzés, il y a quand même quelque chose d'un peu bourgeois, mais sans que ce soit forcément péjoratif. C'est-à-dire que Les bronzés, il y a clairement je sais pas si c'était voulu ou pas, je sais pas si c'était approfondi ou pas, mais il y a quand même une approche sociologique, et c'est aussi en ça que ça ringardise à ce moment-là directement la zizanie, c'est que on va vous parler du Club Med, qui est à ce moment-là quelque chose de à la fois nouveau et florissant.
Ouais.
On va vous parler des voyages organisés, on va vous parler de la manière dont les Français sont assez beaufs, ce qui n'a pas vraiment changé, quand ils partent en groupe à l'étranger, en l'occurrence là c'est dans un village vacances de Côte d'Ivoire, ça a vraiment été tourné là-bas. Moi, je l'ai revu en ayant en tête Les bronzés font du ski, qui est culte et qui est, c'est vraiment une minute, un gag.
C'est une autre vibe, hein, c'est vraiment...
Oui, mais
c'est,
et là, pas du tout.
Ouais, c'est
pas du
chose,
tout.
Ouais.
Alors, il y a des gags vraiment, en plus, vraiment, genre, tire sur mon doigt, où c'est genre, ils balancent des seaux d'eau à des gens. Enfin, on est vraiment sur des trucs
les
un
algues
peu,
à poil,
un peu lourdingue,
ouais,
voilà. Et puis, il y a quand même les deux, trois répliques dont on se souvient, qui sont restées cultes, sont quand même d'une vulgarité inouïe. Donc, je vais pas les répéter. Mais j'ai été très surpris en le voyant. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de... de tragique en fait dans ce film. J'avais complètement oublié, par exemple, il y a un animateur, celui qui fait Bip Bip Bourseau, qui meurt. Alors pardon encore une fois pour le spoil, mais bon, c'est un vieux film. Les gens l'ont peut-être déjà tous vu, mais j'avais complètement oublié ça dans un film qui est censé être une comédie. Il y a le personnage de Luis Rego qui est animateur, qui galère, qui n'arrive pas à avoir du succès avec ses sketchs. Ça ne fait rire personne. Il est complètement déprimé. Il a des relations sexuelles d'une nuit sans lendemain, complètement désabusées. Le personnage de Thierry Lhermitte aussi, qui est un lover,
mais un loser
et qui n'arrive à rien construire. Il y a quelque chose de vraiment, alors je vais pas dire sinistre, mais quelque chose de doux amer qui m'a totalement surpris quand je l'ai revu. Moi j'avais encore une fois l'image des Bronzés font du ski, le gag à la minute, le truc poète. Et là je me suis dit, mais alors, c'est pas Bergman non plus, hein, mais il y a un côté. Non, mais il y a un côté vraiment.
Les Bronzés, c'est pas Bergman.
Non, ça sera mon épitaphe. Non, mais il y a quelque chose de. Ouais, vraiment qui m'a touché. Vraiment qui m'a touché. Des relations hommes-femmes complètement basées uniquement sur le désir, l'attirance sexuelle, un petit peu.
Alors qu'à l'époque, déjà, quand même. Ben, les rôles féminins sont un peu plus proactifs, sont mieux représentés. En tout cas, Josiane Balasko, elle se laisse moins faire que d'autres rôles féminins un peu plus.
Le film commence avec Josiane Balasko. Josiane Balasko est en couple avec Gérard Jugnot. Voilà. Elle est déjà sur place, il la rejoint. Elle est déjà sur place et elle lui avoue qu'en fait, comme lui, il a eu une aventure, il l'a trompé à Paris, ben qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle a déjà couché avec 3 hommes. Je pense que pour l'époque, c'est quelque chose d'assez. D'assez nouveau, quoi. On nous présente un couple qui décide d'avoir une union libre sur son lieu de vacances, au vu et au su de tout le monde, et surtout en se croisant tous les jours.
Est-ce que c'est pas l'humour, justement, de la génération 68, en vrai? L'évolution des mœurs, l'évolution, justement, de on va se foutre un peu de notre gueule, des stéréotypes, un peu de qu'est-ce que c'est le couple. Bah, regardez comme c'est ridicule. Regardez qu'est-ce que c'est le Club Med, qu'est-ce que c'est les vacances, qu'est-ce que c'est. Tout ça, c'est ridicule. Tout ce spectacle, finalement, tout le monde est un peu triste, tout le monde est un peu ridicule.
Oui, il y a quelque chose de plus fin que juste les présenter comme des beaufs, ces personnages. Et c'est ça qui, encore une fois, m'a. Si tu prends les Bronzés font du ski, le même couple Jugnot-Balasko sont devenus des bourgeois, ils se sont enrichis ils ont gagné à l'auto et donc ils sont devenus odieux et c'est presque trop caricatural. Et là je trouve que les personnages je suis pas là pour réhabiliter les Bronzés à tout prix, mais les personnages ont des failles, ont quelque chose de vraiment touchant. Et encore une fois, oui, il y a un côté un peu non conventionnel, je trouve, dans ce film là
Et puis c'est un cinéma, là les Bronzés l'incarnent bien, effectivement, c'est aussi un cinéma qui naît d'une ère nouvelle de comique qui vient des cafés-théâtres, puisque effectivement dans les années 60-70, il y a cette ère des nouvelles générations de comédiens qui viennent, comme Coluche, Patrick Devers, Miu Miu, Les Splendides bien sûr, qui viennent des salles comme le Café de la Gare, comme Le Splendide, comme Les Blancs Manteaux, qui ont fait leurs armes au théâtre et qui viennent inonder comme ça les écrans et qui dans les années 70-80-90 vont être les acteurs que tout le monde connaît.
Oui, et je pense que du coup, ils amènent quelque chose d'actuel, en fait. Ils amènent à ce moment-là quelque chose, bon, qui évidemment aujourd'hui a vieilli par essence, mais comme aujourd'hui, les gens du stand-up, si tu les prends dans un film, ils vont amener un instantané de l'époque. Et à ce moment-là, c'était un peu le même principe. Les gens faisaient des seuls en scène. Alors, il y avait beaucoup de pièces en collectif, mais les gens faisaient des seuls en scène où ils essayaient de faire rire les gens. Et donc, dans ces cas-là, t'es forcément obligé de parler de l'époque. Donc là, c'est le Club Med, les unions libres, pour ne pas dire l'échangisme.
C'est très cru aussi, ça parle de cul de manière assez.
Et je pense qu'ils ont amené ce truc-là de. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la zizanie, c'est genre le cinéma à la papa, c'est peut-être un peu fini,
un peu bourgeois,
un peu académique,
lit,
un peu à la Marivaux, mon amant dans le placard. Et là, t'as un truc, mon amant, il est en face de toi, il est en train de manger en face de toi à table, quoi. C'est peut-être ça, en fait, le renouveau que ça, le vent de fraîcheur que ça a apporté à quelque chose de voilà, on est en prise avec notre époque, comme l'est le Père Noël est une ordure sur d'autres choses, sur le fait de répondre à des gens dépressifs au téléphone,
qui est aussi, du coup, très triste, très mélancolique,
absolument, mais avec beaucoup plus de gags. Et puis après les Bronzés, ça finit assez bien dans le sens où le couple dont on a parlé se remet ensemble, etc. Donc on n'est pas non plus dans un truc notamment punk, mais
Bergman,
le premier
punk,
surpris. Voilà.
on y arrive.
Finalement, voilà, il y a Liv Ullmann qui arrive à la fin des Bronzés, c'est une vraie surprise.
C'est vrai que c'est le choc. Ils ont tourné sur la même île en fait, ah, incroyable, en Suède,
c'est ouais. La fameuse île de Bergman.
Effectivement, en Côte d'Ivoire. Tu parlais de stand-up. Qui seraient les héritiers du splendide et de l'humour des bronzés aujourd'hui?
Je pense que.
Le Palmachot. La bande à
Fifi. Oui, mais peut-être. Non, mais oui. Non, mais blague à part, oui. Bah, ouais. Mais c'est-à-dire que je pense que sur le côté radiographie de l'époque. Toute proportion gardée, mais à l'époque, le Club Med, machin, ou même relation homme-femme, on peut aller chercher les haters gonna hate, mais on peut aller, peut-être aller chercher du côté d'Emmanuel Mouret. Mais je, voilà, avec non mais tout, non mais okay. Le côté okay. Relation homme-femme à l'ère moderne, le couple, pas le couple. Alors évidemment, Mouret, c'est plus bourgeois, c'est plus bavard, etc. Mais peut-être qu'il y a des points communs avec ce que faisait le Splendide. Et sur le côté bande de potes qu'on retrouve de film en film avec des gros gags, oui, clairement, Philippe
Lachaud.
Et Blachaud,
chacun dans son rôle, ouais, ouais. Jean-Claude Duss, toujours ouais, dans son rôle un peu de machin, effectivement.
Je pense que du côté de la bande à Fifi, y a, qui n'est d'ailleurs, où il n'y a d'ailleurs pas tout, tout n'est pas acheté, je pense qu'il y a des, y a des points communs, ouais.
D'accord.
Mais après, je pense que c'est plus une influence du Splendide qui est éclatée dans différentes œuvres.
Donc des héritiers effectivement au Splendide, à cet humour des bronzés particulier qui arrive comme ça sur l'écran en 78 face à La Zizanie de Louis de Funès qui est, on l'a dit, un film qui malheureusement est peut-être ferme une porte en tout cas pour l'humour, un humour un peu à la date, un peu à la papa, un peu daté en tout cas. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème autour de l'année 78 et on s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème. Cette douce balade, c'est celle de Voyage au bout de l'enfer, musique de Stanley Myers, The Deer Hunter de Michael Cimino, qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème consacré à cette année 1978. Voyage au bout de l'enfer avec Christopher Walken, Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale, qui raconte en 68 l'histoire d'une bande d'amis de Pennsylvanie qui va se retrouver changée après être partie combattre pendant la guerre du Vietnam. Et qui est donc ce film-là aussi un succès de 78 puisqu'il va récolter 50 millions de dollars au box-office et surtout récolter 5 Oscars dont celui du meilleur film. C'est un film assez grandiose, on en a parlé hors micro avec Mathéo, aux séquences assez cultes. On a parlé bien sûr de cette séquence de revolver de la roulette russe bien sûr. Et surtout de prestations stellaires. Christopher Walken qui gagnera un Oscar, Robert De Niro évidemment. Bref, c'est un sacré bon film. Mathéo, c'est quoi ton histoire avec Voyage au bout de l'enfer? Tu te souviens toi de ton premier visionnage du film? Tu l'as dit, tu n'étais pas né en 78, je le rappelle pour les auditeurs.
Non mais en plus si je l'avais vu en France, je pense que j'en aurais...
Le trauma.
J'en aurais fait des cauchemars encore aujourd'hui. Ouais. Non, alors... par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur comment j'ai confectionné ma cinéphilie, quand j'étais étudiant, je vivais donc à Paris et j'achetais des DVD d'occasion à l'époque, 2002 par là, 2000-2002. Et donc j'ai vraiment essayé de me constituer, comme font beaucoup de gens je pense, hein, je ne suis pas du tout une exception, un socle de classiques, de films qu'il faut avoir vus. Le prisonnier du désert, les Scorsese. Ouais. Et à un moment donné, je suis un peu monomaniaque dans ma cinéphilie. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais vouloir redécouvrir un réalisateur, je vais regarder les films par ordre chronologique. Et à l'époque, moi, voilà.
Je comprends.
C'est pas si rare que ça.
Je fais la même chose.
Mais à l'époque, à un moment donné, j'ai eu un blocage sur De Niro. Là aussi je pense pas être le premier et je me suis mis à acheter Taxi Driver, c'est plein de films que j'avais pas vu avant 20 ans et que j'ai vu après et je me suis mis à acheter Taxi Driver, Les Incorruptibles, bon Casino je l'avais vu,
Le Parrain 2
et donc Voyage au bout de l'enfer. Parce qu'en plus, voilà, il y avait quelque chose de la jaquette où on voit De Niro avec le pistolet sur la tempe, quelque chose d'assez attirant. Christopher Walken, Meryl Streep, tu l'as dit. Et j'ai été bouleversé, mais j'ai été rétamé en fait par ce film.
Rétamé.
Ouais, parce que c'est déjà, c'est le premier film le premier grand film, on va dire, le premier film hollywoodien qui s'empare du Vietnam, et c'est un an avant Apocalypse Now, et surtout, en fait, il le fait d'une manière remarquable, c'est-à-dire que tu as une, le film en trois parties, t'as une première, il dure trois heures, t'as une première, alors c'est pas segmenté une heure, mais t'as une première partie qui se passe en Pennsylvanie, où tu as le temps donc de découvrir ce groupe de potes d'origine slave qui travaille dans les dans l'acier
dans une mine,
en Pennsylvanie, donc tu les rencontres, tu les apprécies, t'as envie d'être leur pote,
tu les vois au bar, tu les vois faire la fête, tu les vois travailler au bar,
tu les vois à un mariage, tu les vois chasser le deer, donc le cerf. Merci. Ouais, on parle anglais ici. Comment tu dis déjà le deer?
Ils auraient pu traduire la chasse au cerf, hein, au lieu de faire voyage au bout de l'enfer.
Chasse au cerf, les gars. Oui, c'est ça. En plus, bon, après, ça fonctionne aussi.
Oui, ça fonctionne.
Le titre fonctionne parce que ça te donne envie de voir le film, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu as donc une première heure où tu les vois. Une première heure où ils sont au Vietnam, et ensuite, alors, bon, encore une fois, c'est pas un tiers en temps, mais à la fin, le personnage de De Niro, qui est inadapté à son retour en Pennsylvanie, retourne au Vietnam pour aller chercher le personnage de Christopher Walken, qui s'y est littéralement perdu, dans tous les sens du terme. Et je trouve que le fait de camper comme ça, ces personnages et ce lieu, alors c'est tourné dans l'Ohio, c'est pas en Pennsylvanie, mais bon, il y a vraiment un truc que tu gardes en tête et que tu y crois complètement.
C'est long, enfin, ça prend son temps,
justement, ça te présente plus que il ne faudrait les personnages, enfin, au sens où c'est très riche. Et ça te les balance dans l'enfer du Vietnam très vite, avec vraiment ce côté vie paisible, mais avec quand même un je ne sais quoi d'un peu nostalgique, parce qu'on sait que ce bonheur va bientôt prendre fin, parce qu'ils vont être obligés d'aller combattre au Vietnam, ils n'ont pas le choix. Et derrière, tu les vois dans l'enfer de la guerre, ils ont quand même la chance, mais évidemment ça sert aussi la narration, de se retrouver dans le même village entre gens du même patelin, mais ensuite il va leur arriver que des choses plus ou moins horribles, entre celui qui, bon bref, il y en a un qui a un PTSD, un qui reviendra pas, un qui a les jambes coupées, bon. C'est ça. Non, mais le film est d'une noirceur inouïe, et c'est d'autant plus saisissant et d'autant plus horrible que tu les as vus vivre leur vie au quotidien et être amoureux, vouloir se marier, attendre des enfants.
Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est d'avoir pris autant de temps au début pour.
Il y a comme une sorte d'ellipse, mais que refera d'ailleurs des années plus tard, que referont les frères Hughes dans un film totalement sous-estimé qui s'appelle Génération perdue, je crois, ou Génération sacrifiée en anglais, c'est Dead Presidents, où il envoie des Afro-Américains d'un quartier au Vietnam. Et il y a une espèce d'ellipse comme ça, qui est encore plus radicale dans son film, où tu les vois dans leur quartier, et genre vraiment, t'as un montage où la minute d'après, t'as une coupe, ils sont au Vietnam. Ouais. Là, c'est un peu plus subtil, mais encore que, parce qu'ils y sont quand même assez violemment, assez bruyamment, assez radicalement, et très très vite ils sont prisonniers. Et puis t'as évidemment cette séquence mais abominable, moi j'ai vraiment mis du temps à la revoir, de roulette russe, où en fait ils sont, pour les gens qui connaissent pas, ils sont prisonniers, et en fait les Viet Cong les obligent à faire de la roulette russe, sinon
jusqu'à ce qu'il y a l'un des deux,
oui c'est ça, jusqu'à ce qu'il y a un mort,
avec un jeu de paris.
C'est une scène mais qui est inoubliable, mais qui est inoubliable parce qu'elle est insupportable, on a envie de crier, on a envie de les aider à s'échapper, c'est horrible. Oui.
Et tu l'as dit, c'est peut-être l'un des films les plus l'un des premiers films emblématiques sur la guerre du Vietnam américain, puisque alors ça n'a peut-être pas été vraiment le premier film à traiter de la guerre du Vietnam. Il y a eu Les Bérets Verts avant, il y a eu Les Visiteurs d'Elia Kazan, il y a eu plein de films comme ça qui sont venus parler de la guerre du Vietnam alors qu'on était encore pendant la guerre du Vietnam, parce que rappelons-le, la guerre du Vietnam a duré de 55 à 75, donc 20 ans de guerre, bon un peu comment dire loose, un peu distendu véritablement, mais qui a quand même amené 500 000 d'Américains à aller dans cette région du monde pour se battre, donc qui a profondément scarifié les États-Unis. Et ce film-là, après la fin de la guerre, va donner le là, on va dire, de toute une série de films qui va être, comme tu l'as dit, qui vont être différents, qui vont être quelque chose de plus réaliste, plus brut, qui vont se focaliser sur la tragédie que c'est d'être un vétéran, et qu'est-ce qu'on ramène de cette guerre-là dans le pays. Encore une fois, on peut faire une parallèle avec Halloween, qui est, regardez, le pays safe et secure, et bien on va prendre ce mal-là qui vient de l'extérieur, il est rentré dans la tête des Américains, il est rentré dans le cœur des Américains, oui. Et il est là pour rester. Et c'est assez, assez fou.
Je me suis un peu emballé, effectivement, quand j'ai dit que c'était le premier film, mais t'as bien fait de rappeler que c'était pas le premier. Mais en tout cas, il commence à tourner en 77, Cimino, et la guerre du Vietnam à ce moment-là n'est officiellement terminée que depuis 2 ans.
Oui.
Donc c'est vraiment tout chaud, quoi. Et à ce moment-là, il y avait des réticences à parler du Vietnam, il y avait des réticences à parler du Vietnam aussi frontalement, et puis surtout.
Les traumas du Vietnam, de ce côté voilà, pas glorieux.
C'est difficile d'en parler sans spoiler, mais il y a une séquence assez forte du film où un personnage se met à chanter God Bless America et tout le monde reprend. Mmh. Et ça avait énormément fait polémique auprès des dirigeants d'Universal qui voulaient absolument couper ce moment parce que c'était mettre l'Amérique le nez dans son caca et le nez dans ce qu'elle avait fait au Vietnam et dans ces blessures-là qui, à l'époque, n'étaient évidemment pas refermées. Elles étaient encore ouverte, elle venait presque de s'ouvrir.
Et c'était que le début, parce que, après t'as Apocalypse Now qui arrive, voilà, t'as Platoon, t'as tout ça.
Et pour en revenir à la série de films, les quatre qu'on retient le plus, c'est Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, Platoon et
Full Metal Jacket,
mais chacun dans leur style.
Ouais.
C'est-à-dire que Coppola, c'est un chef-d'œuvre, mais il a quelque chose de presque trop esthétisant. Je dis ça, c'est pas du tout des pincettes, j'adore le film. Mais qui fait que quand je vais le revoir pour kiffer. Je vais jamais revoir Voyage au bout de l'enfer pour kiffer.
Il semble moins réaliste, moins plus réel.
Mais j'aime le voir parce qu'il a d'autres qualités par ailleurs, toute cette première partie, les acteurs, Meryl Streep, on va y revenir. Et Platoon a un côté très Oliver Stone, genre un peu bas de plaf, mais ça fonctionne aussi très bien. Et Full Metal Jacket a un côté là aussi presque gaudriolesque, toute proportion gardée, avec les fameuses scènes baleines, un peu un côté slapstick presque. Je mets des guillemets sur cette ligne-là. Et finalement, pour moi, le meilleur, c'est vraiment Voyage au bout de l'enfer, parce que c'est celui qui me laisse le goût le plus amer, le plus sale dans la bouche, qui fait que j'ai pas envie d'y revenir et qui donc me plonge vraiment dans le traumatisme qu'a été le Vietnam, ce que j'ai moins avec les autres.
Et on l'oublie un peu, mais Taxi Driver est peut-être l'un des premiers films aussi à montrer cette histoire d'un vétéran qui revient du Vietnam et qui ramène son PTSD
impossible
à New York. Alors c'est pas le sujet du film, donc c'est en fil rouge et en sous-texte véritablement, mais Robert De Niro est déjà un vétéran du Vietnam dans Taxi Driver, donc ça montre quelque chose. Après, bien sûr, Voyage au bout de l'enfer, c'est la guerre et le cinéma qui sont un peu les deux mamelles des États-Unis, de Hollywood, puisque c'est le cinéma se nourrit de ces sujets, et puis la guerre est un sujet pourvoyeur d'histoire encore et encore. Mais là, on va avoir vraiment une différence entre la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, pardon, qui est une guerre gagnée. Mmh. Où on va avoir Hollywood qui va évidemment s'amuser, on va dire, à faire moult films dessus sur la gloire américaine dans toute sa splendeur. Et là, on va avoir une autre guerre qui est perdue pour le coup. Ça arrive pas souvent aux Américains, mais ça arrive. Pour le coup, en 78, dans les années 70, c'est plus le Hollywood des années 40 ou 50, c'est le nouvel Hollywood. Et là, du coup, c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi le traitement de la guerre du Vietnam est différent de celui de la Seconde Guerre mondiale. C'est que la nouvelle génération de cinéastes, elle dit non, nous, on va parler du Vietnam. Différemment, et on va montrer vraiment ce que ça a fait à notre génération, aux jeunes, etc., etc.
Oui, et d'ailleurs, ça a dû cliver un peu le public à l'époque. Alors, Voyage au bout de l'enfer gagne 5 Oscars, dont meilleur film, donc c'est une vraie radia et totalement mérité. Mais je pense qu'à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, mais bon, je pense que le temps a fait son œuvre. Ouais. À l'époque, ça devait être difficile pour, un peu comme nous en France avec la guerre d'Algérie, qu'on a quand même traité au cinéma très, 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 très tard.
Nous, c'était pas 5 ans après, quoi.
C'était longtemps après. Et les Américains ont toujours été en avance là-dessus et très fort là-dessus sur on se regarde et on s'ausculte et on se diagnostique.
Alors que le corps est encore chaud, entre guillemets.
Et bon, je pense qu'à l'époque, ça a dû servir de catharsis à certains, mais ça a dû être très difficile pour d'autres de voir un film où... Et en même temps... Encore une fois, c'est pas, on n'est pas dans un truc de l'Amérique fait du mal, l'Amérique est le grand méchant, parce que finalement, les Viet Cong dans le film, on n'a pas vraiment d'autre choix, on est un peu pris en otage en tant que spectateur, on n'a pas d'autre choix que d'être empathique avec les Américains qui sont là-bas. Donc, c'est pas vraiment un film sur, c'est plus que, genre, qu'est-ce que l'Amérique est allée foutre là-bas? Pour ramener autant de traumatismes, mais on n'est pas vraiment dans un truc de l'Amérique, l'Amérique, ce grand méchant qui est allé là-bas pour rien et imposer sa vision. Je le prends comme quelque chose d'un peu plus ambigu.
Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, être allé là-bas pour rien, parce que moi j'ai lu quelque chose aussi de particulier, c'est que là on l'a dit, c'est donc la guerre du Vietnam, une guerre perdue pour les États-Unis, et tout le film, il y a quand même cette question incarnée par Robert De Niro, qui est quelqu'un qui revient aux États-Unis et qui, comme tu l'as dit, n'est plus adapté à cette vie américaine et qui erre comme ça sans savoir où se placer, où se mettre, avec la tête pleine de pleine d'images horribles. Et je trouve que le film est dans cette position, cette posture quasi philosophique de se dire à quoi bon, et une posture qui effectivement fonctionne sur les personnages, mais qui fonctionne un peu aussi pour l'Amérique en tant que telle, qui est là en train de se dire non mais attends, on fait une guerre dans laquelle on est les rois du monde et là on la perd, mais du coup ça, c'est comme si cette guerre avait remis en cause la nature même des États-Unis qui sont ce pays guerrier et conquérant et vainqueur. Et là, pour le coup, on a une guerre qui n'est pas remportée et du coup, ça fout les États-Unis et dans cette remise en question philosophique,
face à leur contradiction,
plein doute, bien sûr.
Face à leur contradiction et dans un truc extrêmement désabusé de « ouais, so fucking what », quoi.
Ouais.
En quoi on a avancé, finalement ? Des vies brisées, des morts, bon...
Et après, pour l'histoire dans l'histoire, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans le film, on en a parlé hors micro, c'est que si vous voyez Voyage au bout de l'enfer, et revoyez-le, c'est un film formidable, attardez-vous, regardez bien John Cazale dans le film, puisque lors du tournage de ce film-là, John Cazale, c'est son dernier film, puisque lorsqu'il tourne le film-là, il est atteint d'un cancer, et il a dû faire des pieds et des mains, et Robert De Niro et Meryl Streep ont dû faire des pieds et des mains avec la production pour qu'il puisse malgré tout participer au film, et il n'a pas pu voir le film terminé, puisqu'il est mort avant sa sortie, mais voilà, c'est aussi le dernier film d'un immense acteur, John Cazale, qu'on a vu dans L'après-midi de chien, qu'on a vu dans Le Parrain, bien sûr, donc voilà, c'est aussi une espèce de chant du cygne. Et puis moi, quand je l'ai vu pour l'émission, j'avais les yeux braqués sur lui, je savoure chaque scène avec lui, et on voit que les acteurs sont vraiment dans une sorte de relation. Alors après, peut-être que tu l'interprètes comme tu veux, mais t'as un côté quand même, on est en train de voir comme ça les derniers moments d'un acteur formidable à l'écran, qui, rappelons-le, a joué dans tous ses films, ont été nommés à l'Oscar du meilleur film, donc c'est quand même un mec qui a été une étoile filante comme ça.
Oui, et pour rester sur les acteurs, Meryl Streep est magnifique dans le film.
Oui, c'est le rôle qui le fait aussi, qui l'a fait exploser.
Et c'est De Niro, pour l'anecdote, qui la voit au théâtre et qui suggère qu'on la caste pour le film. Et là, leur relation dans le film à tous les deux est très belle, d'ailleurs.
Meryl Streep, qui est d'ailleurs en couple avec John Cazale
à la ville,
qui l'accompagne jusqu'à ses derniers jours. Il y a vraiment cette histoire terrible. De Niro en parle d'ailleurs, il dit « J'ai jamais vu quelqu'un aussi dévoué jusque dans la mort avec un acteur. » Il parle de cette relation Meryl Streep-John Cazale,
oui,
qu'il a vu.
La perf de il y a John Savage aussi qui est pas mal, et la perf de Christopher Walken est démentielle aussi.
Mais
juste un mot sur, parce que finalement on parle aussi de forme dans l'émission. Tout à l'heure, j'ai pas précisé que l'une des raisons qui font qu'Halloween est une réussite, c'est la photo de Dean Cundey qui est incroyable, et notamment cette fameuse séquence où Jamie Lee Curtis pense qu'elle a fini, et tu vois le visage de Michael Myers qui arrive derrière comme une sorte de halo de plus en plus clair. Mais pourquoi je dis ça, c'est que c'est Vilmos Simon, pardon si je le prononce mal, qui fait la photo du Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Il avait notamment bossé avec Spielberg sur Rencontre du troisième type. La photo du film, et notamment cette fameuse séquence où De Niro traque le cerf, alors ce qui a été tourné dans l'État de Washington, la photo du film, et ça fait aussi partie des choses qui font qu'on y revient. La photo du film est vraiment somptueuse aussi.
Ouais, c'est assez sublime. Enfin voilà, j'espère que tout ça vous aura convaincu pour revoir Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qui est l'un des grands films de cette année 1978 et qui était donc au cœur de notre troisième et dernier thème. On s'en va sans plus tarder vers la fin de cette émission, mais comme d'habitude, on va pas vous laisser comme ça et on va partager nos petits coups de cœur de cette année-là. Voilà, comme d'habitude, avant de vous quitter, on va vous partager nos coups de cœur, nos recommandations sur les quelques films qu'on n'a pas pu évoquer dans les thèmes principaux de l'émission. Toi, Mathéo, tu voulais parler de plusieurs films à recommander.
14. Mais en plus, pour être...
Quel film tu voulais recommander ?
Les coulisses. J'en avais noté beaucoup, mais je vais en retenir deux.
Tu peux citer ta liste aussi.
Non, mais je vais en retenir deux. Il y en a un que tu as cité, c'est Fury de Brian De Palma, parce que j'adore Brian De Palma, et parce que Fury, c'est c'est pas forcément, quand on cite ses trois films préférés de De Palma, c'est jamais, rarement celui qui arrive dans le trio de tête. Moi, je le mettrais vraiment dans mon trio de tête de De Palma, parce que c'est un film qui est un peu baroque, c'est un film qui est un peu ardu.
Ça raconte quoi, Fury ?
En fait, c'est un peu ardu, ça commence avec des agents secrets, il y a un massacre, enfin, il y a quelqu'un qui se fait zigouiller sur une plage de la mer Noire, et en fait, c'est des gens qui ont des aptitudes de télékinésie, donc ils peuvent communiquer par la pensée et faire des choses avec leur cerveau.
Scanners de David Cronenberg.
Ouais. Et qui, voilà, et qui se font, qui sont du coup très prisés par le FBI et les agents secrets pour leur pouvoir comme ça, leur cerveau extrêmement développé. Et donc, c'est avec Amy Irving, Kirk Douglas, entre autres, et John Cassavetes. Pour moi, c'est un des meilleurs films de De Palma parce que c'est gonflé, parce qu'il y a des scènes totalement inoubliables, parce que les acteurs sont top, et parce qu'il y a une scène qui est comme la fameuse scène de Scanners, j'en dis pas plus. Donc Fury de De Palma, je vous le conseille vivement. Je crois même que c'est John Williams qui fait la musique, il faut que je vérifie. Mais voilà, c'est pour moi un très très bon film. Et l'autre reco que je ferai, je vois plein de points communs avec qui est sorti donc la même année, effectivement, puisque c'est 78.
Avec les bronzés.
Avec Bergman, qui sort d'ailleurs Sonate d'automne, tu l'as dit. Days of Heaven, Les Moissons du Ciel,
formidable,
de Terrence Malick, qui pour moi, même s'il y a un match peut-être avec Le Nouveau Monde, est son meilleur film.
Oh là là.
Et il y a des, en tout cas sur la photo, là c'est Nestor Almendros qui fait la photo du film, il y a des scènes formidables de paysages, de chants, le train évidemment, là, cette maison incroyable, les criquets à un moment donné qui arrivent, le feu, la nuit, et c'est un des premiers films en plus où Terrence Malick commence un peu à faire ces fameux plans que moi j'adore chez lui et qui continuera à faire après jusqu'à la caricature, ces plans caméra à l'épaule où on suit un personnage au ras du sol, ou on va dire au niveau de la taille, et il commence à le faire un peu. Il y a une scène où Richard Gere et sa partenaire, j'ai oublié son nom, vont se baigner dans un lac, et il suit comme ça Richard Gere et on voit le lac apparaître au niveau de ses cuisses, en fait, et il commence à faire ces fameux plans là à la Malick où on suit des personnages de dos qui mettent la main dans un champ de blé. Voilà, le film a énormément de qualité. Il raconte aussi une certaine Amérique et une certaine époque, et je le trouve magnifique, et je trouve que c'est un bon parent à Deer Hunter, dont on parlait à Voyage au bout de l'enfer.
Et c'est pas le dernier film de Malick avant 20 ans?
Si, parce qu'il fait la ligne rouge 20 ans plus tard.
Ouais. D'accord, qu'il fait 78, Les Moissons du Ciel. Après, il attend 21 ans pour faire.
Mais c'est réforme des retraites, elle de l'époque. Quoi. Il s'est arrêté un peu.
Je vais m'arrêter 20 piges. Ouais. Et après, je vais refaire ma carrière.
Ça, ça. Il lui manquait des annuités, il est revenu.
Donc, Fury de Brian De Palma et Les Moissons du Ciel de Terrence Malick. Merci pour tes recos, Mathéo. De mon côté, je vais partir dans un autre univers, et ça aurait pu faire un thème à part entière, véritablement, ce film-là. Et ce dont il parle, puisque je vais vous recommander Le Maître Chinois, Drunken Master de Yuen Woo-ping, avec Jackie Chan, qui est effectivement l'un des grands films de cette année 78, puisque c'est l'un des films de la révélation Jackie Chan en 78, qui sort deux films plus ou moins similaires avec les mêmes acteurs, plus ou moins les mêmes histoires. Il sort deux films, donc Le Chinois se déchaîne, c'est des titres assez de l'époque, hein, je reprends les titres de l'époque.
Avec Louis de Funès.
Voilà, c'est des titres là, traduits de l'époque. Le Chinois se déchaîne et Le Maître Chinois, donc Drunken Master, qui sont deux films qui vont révéler Jackie Chan véritablement sur la scène et chinoise et hongkongaise et dans le monde, et qui vont aussi imposer, créer ce qu'on appelle la kung-fu comédie, qui est du coup le sous-genre pour lequel notamment est connu l'acteur, qui est donc ce mélange de combat et de comique de situation qui est très très divertissant, puisque on a ces combats chorégraphiés, on a ce côté, ces personnages très stéréotypés, on est quasiment dans du retour au burlesque, on est quasiment dans du Chaplin, dans du Keaton, avec ces personnages avec ces sourcils broussailleux, ces grosses moustaches, ces postiches, enfin bref, tu sens que tout le monde s'amuse très 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 bien, et c'est très divertissant pour le spectateur. Bref, on a un vrai retour comme ça au burlesque. Et puis c'est aussi le premier film de Yuen Woo-ping, qui est le réalisateur de l'excellent Iron Monkey, et qui sera notamment le chorégraphe des cascades de Tigre et Dragon, Kill Bill, La secte du Lotus Blanc, et plein d'autres de films. Voilà, donc moi c'est un titre co, Drunken Master, c'est très divertissant, c'est très drôle de voir Jackie Chan comme ça jeune à mettre en place comme ça ce qui en plus en 78 il met en place, on va dire, l'école de cascade Jackie Chan, qui va le suivre comme ça pendant 20, 30 ans, 40 ans et tout au long de sa carrière, et qui va comme ça instaurer aussi ce personnage qu'on retrouvera dans Rush Hour, qu'on retrouvera dans Le Marin des Mers de Chine, qu'on retrouvera dans ses autres films plus connus. Voilà, donc c'est ma petite reco, Drunken Master, Le Maître Chinois. Voilà qui conclut cette émission d'Année-Lumière consacrée à 1978. Merci à mon invité, Matteo Maestrachi. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur, et bien sûr Tsugi Radio et Antoine, ici en studio avec nous. Merci beaucoup, Antoine. Merci également à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'Année-Lumière. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.